Vous écoutez
RMC. Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'after en direct sur RMC 7 jours sur 7 jusqu'à minuit et 24 heures sur 24 en podcast. L'équipe ce soir, un titulaire du vendredi soir, Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut à tous.
Et un homme qui répond, qui n'est pas là le vendredi d'habitude, mais qui répond présent les soirs de grands matchs, tel Mbappé, c'est Daniel Riolo.
Bonsoir les amis, c'est normal, soir d'équipe de France, forcément.
Bienvenue.
Il faut être là.
On avait reçu l'autre boss il y a quelques semaines. Gilbert Bribois.
Ah oui, oui, oui.
Avec Jonathan, on avait reçu Gilbert Bribois.
Il avait fait un vendredi.
Il
y avait quoi?
Je sais plus.
Bon, il y avait des parts en vacances le dimanche, je crois. Donc tu vois, il avait inversé ses jours.
Voilà. L'excuse est quand même nettement moins bonne que moi. Excuse-toi, là, moi, c'est match équipe de France.
Moi, je sais pas. Moi, ça, je laisse à Thibaut.
Match de gala, tenue de gala, c'est pas pour une affaire de vacances. C'est pas pour. Oui.
Allez. On est là pour la rentrée de l'équipe de France, les gars. Et donc cette victoire 4-0 ce soir au Stade de France face aux Pays-Bas.
Je viens de recevoir. T'auras un petit mail quand même lundi matin.
Aïe. Je reste là quand même jusqu'à minuit ou pas du coup? On continue quand même
jusqu'à minuit.
Ça marche. On vous attend 32-16. Venez nombreux. Adriella au standard. Venez débriefer cette victoire 4-0 des Bleus pour la reprise après la Coupe du Monde. On vous attend nombreux. Yoann Crochet sera là en tant que spécialiste des Pays-Bas. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je préviens ce soir, là, à chaque fois que j'entends Kevin et Yoann prononcer les joueurs néerlandais, moi, ce sera la française, hein. Faudra pas m'en vouloir,
ce
sera Weghorst, etc.
Laisse-les s'amuser. Ouais, ils kiffent tous les deux avec les drones et les.
Voilà.
Exactement.
Et les Weghorst. Mm-hmm. C'est Weghorst, on dit?
C'est Weghorst.
Voilà, Weghorst.
Weghorst, merde. J'ai voulu, j'ai essayé, pardon.
Bravo.
Moi, c'était Van Gaal. Voilà, pardon. Dans le dernier quart d'heure de cette émission, l'affaire Amraoui Diallo, les révélations hier dans l'after, toujours dispo en podcast, révélations de Daniel et aujourd'hui du nouveau, des remous et des précisions à faire ce soir.
Oui.
Daniel.
C'est rien de nouveau puisque j'ai tout dit hier, mais c'est genre les suites, c'est toujours assez drôle ce qui se passe le lendemain de révélation, les gens concernés s'agitent et paniquent.
Et puis l'actu du jour pour terminer, ça y est c'est officiel, hein. Nagelsmann n'est plus le coach du Bayern. Tuchel est bien son remplaçant, peut-être du Varane si on a le temps également, qui se voit bien finir à Lens. Bref, on est en direct jusqu'à minuit, on vous attend sur tous ces sujets au 32-16. Adrien là au standard, vous pouvez commenter l'émission sur Twitter, le hashtag RMC Live, le direct studio sur les applis RMC, RMC Sport. Et puis comme on est vendredi, il est 22h45, on est en direct vidéo sur Twitch, la chaîne Twitch RMC Sport. Vous pouvez également nous voir et commenter dans le chat l'after qui commence comme à chaque soir de match par le plus important.
L'important c'est l'essentiel, hein.
Le plus important c'est les 3 points.
Souvent l'essentiel c'est le plus important.
Kevin, Daniel, vos 3 points. Daniel s'il te plaît.
Bien écoute, on n'avait pas vu les Bleus depuis la Coupe du Monde. Moi, je savais pas du tout dans quel état ils allaient être. Et ça donne le premier point. Une belle promenade de l'équipe de France. Avec en point 2, un visage que j'ai vu plus offensif que lors de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est une nouvelle tendance ou pas? Point d'interrogation. Et le troisième point, faut-il, oui, non, derrière le plaisir qu'on a eu ce soir, se demander ce que vaut cette équipe des Pays-Bas qui était évidemment très très diminuée. C'était quasiment une équipe B. En tout cas, c'est quand même une valeur sûre du plateau européen et ces joueurs-là m'ont profondément déçu, et notamment la défense où j'ai l'impression que certes il y avait beaucoup de joueurs jeunes, mais le patron de cette défense, un peu à l'image de ce qu'il est à Liverpool, il est un peu dépassé en ce moment. Van Dijk évidemment, c'est à lui que je pense. Donc des Pays-Bas très décevants et qui se sont fait transpercer très facilement.
Kevin, tes 3 points.
Le premier point, ça reste cette belle équipe de France qui n'a laissé aucune chance à cette faible équipe des Pays-Bas, certes diminuée, mais quand même, j'ai pas aimé notamment comment, et ce sera mon deuxième point, comment les Pays-Bas ont entamé ce match de façon très très naïve, en mode ok, on a 3-4 joueurs de l'Ajax et du Feyenoord, on va relancer derrière, alors que l'équipe de France est la meilleure équipe en contre-attaque. Et en 3, ces deux individualités, Randal Kolo Muani qui a été excellent, notamment sur la première heure de jeu, et bien sûr celui que personnellement je réclame depuis quelques mois, pour pas dire quelques années déjà, Magic Mike, parce que ouais, là on a, même si je respecte beaucoup la carrière du Golioris, mais là t'as quand même un gardien qui est très très moderne.
Est venu C'est tout.
Ouais, on aurait peut-être pu l'avoir avant.
Bon, je crois pas, parce que c'est rare que tu sortes un gardien qui a la carrière de Lloris. Non, mais.
Ça arrive, hein.
Non, mais je.
T'aurais peut-être gagné la Coupe du Monde, quoi.
Pas... Non, mais. Ok, mais tu sais très bien que ça marche pas comme ça.
Je sais bien, le mais gardien, ça aurait pu le faire.
Le gars.
Bah, on a sorti Giroud, on aurait pu sortir Lloris.
La différence, c'est tu aurais aimé
Est-ce que tu acceptes ma comparaison
pu.
À un moment, on a sorti Giroud, on n'aurait pas pu sortir Lloris.
À un moment, on a sorti Giroud.
Meilleur buteur de l'équipe de France.
Et quand est-ce qu'on a sorti Giroud?
Bah, quand on a rappelé Benzema.
Ouais, enfin, tu conçois quand même que c'est pas exactement la même chose.
C'est pas exactement la même chose, mais t'as sorti un cadre de l'équipe de France vieillissant pour un joueur.
Revenir dans des circonstances et avec une histoire très particulière, un joueur qui en plus est Ballon d'Or, c'est pas exactement.
Je ne dis pas que c'était facile, hein. Je dis que ça aurait pu être fait.
Moi, je crois pas, parce que tu ne touches pas à un groupe et aux équilibres d'un groupe, même si, oui, je peux très bien dire avec toi, Mignan, ça fait plus.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Lloris n'avait pas arrêté sa carrière internationale, tu le continues maintenant avec lui?
Après une compétition, la question pouvait se poser. Mais au terme d'un process,
après l'Euro, la question pouvait se poser.
Je pense que à partir du moment où Lloris continuait et vu son passé, je crois pas qu'il bouge. Tu sais, la question s'était posée pendant pas mal de temps en Allemagne aussi. Moi, je crois pas qu'on bouge un gardien comme ça. Après, toi, tu peux dire que toi, tu l'aurais fait. Je suis même pas sûr que si t'es sélectionneur, tu le fais.
Non, mais ça dépend quel type de sélectionneur et quel jeu tu veux. Si tu veux un jeu plus moderne, t'as vu la relance qu'il fait à un moment, la 70e, là, entre deux Hollandais qui le pressent.
C'est pas la question, en fait. Tu comprends pas ce que je dis.
J'ai bien compris sur l'équilibre du groupe. Moi, je te parle
t'as
de sportif.
Une histoire, en fait.
Ouais, mais le sportif, ça compte aussi.
Je suis d'accord avec toi que Maignan, ça fait longtemps qu'il est très, très fort et qu'il aurait pu. Mais je pense que son moment, c'est maintenant. Comme c'est le moment de Upamecano, de Konaté. Il y avait ce soir.
De Colomouani.
Il y avait ce soir un vrai vent frais.
C'est sûr.
Il y a eu la fin d'une histoire. Tout a été bousculé cette semaine. Le capitanat, qui n'a pas été donné à un joueur, justement, de cette génération-là. Lloris, Varane, Giroud, toute cette bande-là, et donc Griezmann. Mais on l'a donné à un joueur qui a fait la transition et qui va faire la transition entre les deux époques et la jonction entre les deux générations. Mbappé, c'est le patron de cette génération, la charnière centrale. Koundé, qui était déjà là, mais qui va devenir encore plus important. Rabiot, qui, à l'occasion de cette Coupe du Monde, est devenu capitaine et va devenir maintenant un cadre dans cette équipe, alors qu'il a été ensuite pièce rapportée. Voilà, c'est en fait c'est des histoires les équipes nationales. On le sait que c'est des histoires.
Non,
et surtout en France, il y a c'est des histoires avec des groupes qui forment un peu des leaders, 4-5 joueurs qui emmènent un petit peu tout le monde avec eux. Et là, ça c'est pour ça que Colomouani était titulaire aussi. Je pense que le signe il est fort.
Bien sûr.
Il pouvait très bien continuer effectivement à dire bon bah Giroud je le mets. Non, Giroud a laissé sa place de titulaire. Finalement le seul qui reste c'est Griezmann. Griezmann est le seul qui en gros est celui on va dire de l'époque 2016-2018.
De la première époque Deschamps.
Exactement.
Avant de rentrer dans le détail de prendre Rodolphe qui nous a appelé au 32-16, l'impression générale de cette équipe de France, c'était quand les gars la dernière fois que vous avez vu les Bleus jouer aussi bien? Est-ce que la Coupe du Monde, vous avez souvenir d'un match où on a vu cette équipe de France
C'est même pas une question de jouer aussi bien, c'est qu'en fait les Bleus ont fait ce qu'ils savent faire. Et ça, c'est déjà une grande force pour une équipe. Parce que jouer bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ils ont pas joué comme le Bayern ou Manchester City. Ils jouent avec leur force, c'est-à-dire un bloc médian. Et par contre, dès que l'adversaire va perdre le ballon, c'est une passe verticale. On profite de la qualité de passe d'un Griezmann, d'un Mbappé. Et derrière, on a la qualité individuelle pour finir dans les petits espaces, dans la surface de réparation. C'est le jeu de l'équipe de France. C'est un jeu en transition.
Amélioré aujourd'hui. On prend plus de plaisir ce soir que pendant
la Coupe
du Monde.
Bien sûr, parce que tu as plus de qualité. Parce qu'il y a cette fraîcheur.
C'est pas pareil parce que à la Coupe du Monde, à partir des quarts de finale, tu joues des équipes qui sont très fortes. Hein. L'Angleterre de cette Coupe du Monde, c'est une bonne équipe. Le Maroc est une bonne équipe et l'Argentine, c'est une
la meilleure.
Excellente équipe. Et c'était la meilleure équipe dans sa préparation et son schéma tactique. Là, tu joues des Hollandais qui sont très diminués et les Bleus. C'est maintenant qu'en fait l'histoire elle commence. Les premières minutes de cette équipe de France ce soir, le but arrive à 1 minute 40, un truc comme ça. Ouais. Ce qu'ils ont fait au tout début, ça c'est quelque chose qu'effectivement j'ai pas souvenir d'avoir vu chez les Bleus, c'est-à-dire un pressing immédiat avec des Hollandais qui ont voulu prendre leur temps, comme t'as dit tout à l'heure, Kevin, à relancer propre et qui se sont fait manger par le pressing. Et quand au bout de 1 minute 40, suite à un pressing, t'as marqué, D'une, ça te met toi en confiance. Deux, bien tu sûr. Mets un coup sur la tronche de l'adversaire.
Le match, est fini.
Le match, il est sur des rails qui sont extrêmement favorables, quoi. Tu vois, après, t'as l'impression que c'est tout droit derrière. Et qu'à chaque fois qu'ils avaient une occasion, ça pouvait faire but. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que les Bleus, de quelle façon ils vont jouer tout le temps? Moi, je pense que c'est plus comme dit Kevin, c'est plus une équipe qui va profiter des transitions parce qu'elle a des joueurs pour faire ça. Bien elle sûr. Va être très dure défensivement parce qu'elle va, elle a une charnière qui est très solide. Elle a un milieu de terrain qui mélange de la technique et de l'impact et des attaquants qui vont aller très vite. Là, on avait Coman, Colomwani, Mbappé, c'est quand même un trio offensif qui est capable de faire beaucoup de dégâts, quoi.
Et le trio offensif que tu as cité, Kylian Mbappé, c'est bien sûr celui des trois qui défend le moins, même si on l'a vu faire quelques efforts. Je pense que le Brassard, ça l'incite aussi peut-être à en faire un peu plus. Mais surtout, Coman, que ce soit en club où il joue maintenant piston, alors peut-être pas avec le nouvel entraîneur, et Randal Colomwani, ces deux joueurs qui, sans le ballon, font énormément d'efforts. Ils ont clairement beaucoup gêné la relance néerlandaise. Et ça, forcément, c'est une arme vraiment exceptionnelle pour l'équipe de France, parce que non seulement tu as des joueurs qui vont vite, et en plus, qui sont consciencieux dans le travail défensif.
Rodolphe, supporter de l'équipe de France, nous appelle au 32-16. Salut Rodolphe.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans l'After, Rodolphe.
Salut Rodolphe.
Enchanté. Bonjour. Supporter du FC Nantes aussi, alors assez content pour Randal Colomwani ce soir. ce que vous disiez, ouais, puis un autre que j'adore, c'est comment Kingsley Coman. On en parle très très peu, mais si on compare par exemple à Dembélé, je trouve beaucoup plus sûr, beaucoup plus impactant défensivement, offensivement, il termine mieux ses occasions.
Et il faisait quoi à la Coupe du Monde?
Bah
il jouait pas.
Bah ouais, exactement.
Parce qu'on l'a peu utilisé, parce que c'est effectivement, comme tu l'as dit, Dembélé qui jouait, et Dembélé a beaucoup déçu parce que en même temps le jeu n'était pas porté vers l'avant et il jouait quasiment deuxième arrière droit, et donc c'est pour ça que la question qui se pose ce soir après ce très beau résultat, c'est est-ce que les Bleus vont toujours jouer comme ça avec un Coman qui, c'est vrai, est capable de faire beaucoup de choses, est capable de revenir, de défendre,
qui n'a pas été exceptionnel en première mi-temps par exemple, bien mis en deuxième.
Je vous rejoins à 200% sur les, je sais plus qui disait ça, mais avec les trois attaquants en effet, et le travail défensif qui est effectué par les deux, parce que Randal Colomwani, du coup je connais bien, en étant supporter du FC Nantes, et c'est vrai qu'il apporte énormément sur ses retours défensifs, et ce qui permet de libérer notamment Mbappé d'un...
Là, de toute façon, c'est simple, cette équipe de France, c'est... En tout cas, on a l'impression, et ça a déjà été le cas sur les mois précédents, face à des équipes moyennes, il peut pas leur arriver grand chose. Surtout pas face à une équipe des Pays-Bas qui est joueuse et qui va essayer de jouer, de sortir les ballons. Là, t'es mort. Soit t'es vraiment très très bon et sublimé comme a fait l'Argentine en finale, ou alors comme a fait l'Angleterre, parce qu'ils ont une qualité individuelle bien au-dessus et qu'ils ont pu répondre aux défis physiques. Mais aujourd'hui, les Pays-Bas physiquement, ils ont pas répondu. Xavi Simons, c'est un excellent joueur, mais il est encore très jeune. Berghuis, c'est une brindille aussi. Face à Théo Hernandez, il s'est fait bousculer 2-3 fois. C'est pas possible face à cette équipe de France. Et en plus, cette équipe, elle est bien équilibrée parce que t'as un Théo Hernandez qui est plus offensif, et derrière, t'as les fameux trois autres défenseurs centraux qui sont là pour l'équilibre. Moi, je pense que vraiment, qu'un Kaloulou, un Kaloulou du Milan qui peut jouer et central droit et arrière droit, sachant qu'il joue en club avec Mike Maignan et avec Théo Hernandez, ça peut être aussi une solution pour suppléer Jules Koundé. Mais en tout cas, cette défense, quand t'as du Saliba derrière, je le disais hier, qui pour moi est également excellent, peut-être même meilleur que les deux sur la relance. T'as encore
des défenseurs centraux, il y a de la boutique.
Il y a vraiment.
Il y a du matos en boutique, quoi.
C'est sûr.
Rodolphe, tu veux ajouter quelque chose?
Oui, j'avais juste moi.
Bouge pas, Rodolphe. Je te reprends dans un instant. On doit faire une petite pause là en ce début d'after. On te reprend dans deux minutes. L'after continue avec Kevin Diaz, avec Daniel Riolo après la victoire de l'équipe de France 4-0 ce soir face aux Pays-Bas. On est ensemble en direct jusqu'à minuit. Je vois vos nombreux messages sur le direct studio, la chaîne Twitch en vidéo, RMC Sport également. Ne bougez pas, l'after revient tout de suite. Vous êtes sur RMC, merci beaucoup, c'est l'after qui continue, il est bientôt 23h.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
L'after avec Kevin Diaz, avec Daniel Riolo ce soir après la victoire de l'équipe de France 4-0 face aux Pays-Bas. Premier match de qualification à l'Euro 2024. On sera avec Johan Crochet dans un quart d'heure, 20 minutes pour nous parler de ces Pays-Bas battus pour la deuxième fois, petite stat Opta, Najib Opta qui est dans mon casque. Les Pays-Bas n'ont perdu un match par au moins 4 buts d'écart que deux fois au cours des 60 dernières années. 4-0 contre la France au Stade de France en 2017. 4-0 ce soir. Voilà. Petite stat au passage. On est en direct vidéo sur la chaîne Twitch RMC Sport comme tous les soirs de la semaine entre 20h et minuit. Vous commentez l'émission également sur le direct studio. Anto écrit franchement le trio Mbappé, Colomoni, Coman, c'est fort. Après les Pays-Bas étaient au bois et manquaient beaucoup de titulaires. Et on est toujours avec Rodolphe. Hein. Vous nous appelez au 32-16. N'hésitez pas, supporter des Bleus. Rodolphe qui voulait conclure. Oui. Vas-y Rodolphe.
Oui, j'avais juste un petit bémol dans le concert un peu de louanges. Oui. C'est où j'ai un peu peur pour l'avenir de l'équipe de France. C'est le remplaçant, si on devait trouver quelqu'un, à Tchouaméni. Surtout le Tchouaméni actuel, que je trouve un peu en dedans. Je vois pas qui peut le remplacer et ça devient, enfin, ça peut être inquiétant pour l'avenir. Mmh.
Tu veux le remplacer, vous aussi, Daniel, Kevin, Tchouaméni, c'est un joueur que...
Non, mais la question se pose. C'est un gars qui a gagné sa place de titulaire très récemment, qui l'a été pendant la Coupe du Monde, qui a parfois été bon, parfois moins bon. Je trouve qu'il n'est pas encore totalement épanoui ou installé en équipe de France. Comme visiblement dans l'esprit de Deschamps, il est titulaire indiscutable. À mes yeux, c'est peut-être encore un petit peu tôt pour le dire. Il a été dépassé au Real quand même. Maintenant, il va falloir quand même suivre ça. Quand un gars n'est plus titulaire dans son club ou joue moins dans son club, si c'est un gars qui est là depuis 10 ans, je peux concevoir que le gars soit installé en équipe de France comme à l'époque où Griezmann jouait moins et jouait quand même en équipe de France. Bon, ok, pourquoi pas. Mais là, l'histoire de Tchouaméni en équipe de France, elle est quand même toute récente. Donc le gars, s'il est plus titulaire en club ou s'il n'est pas totalement taulier dans son club, on aura le droit de se poser la question et de savoir si un autre joueur peut prendre sa place quand même.
Ouais, mais il faut voir quelle est la concurrence. Pour l'instant, il y a personne qui peut concurrencer.
Kamavinga peut jouer à ce poste-là.
Ouais, même sinon, il est arrière gauche.
C'est pas le même. Ouais. c'est pas le même profil quand même. C'est pas le même profil. Tchouaméni, c'est vraiment.
Je vois ce que tu veux dire, mais enfin. Bon.
Bah déjà, rien que la carrure. Hein. Je te dis tout de suite.
Alors la carrure. Bah,
Tchouaméni, c'est un joueur.
Tu as le droit de jouer devant la défense sans avoir un physique de brutasse.
Oui, mais bon. Non, j'ai rien dit.
Oui,
j'ai rien dit.
Non, mais c'est clair que pour le coup, Kamavinga est plus profil Verratti, mais Tchouaméni, je pense que c'est quand même un joueur qui est assez solide, qui est aussi costaud dans les duels, et je pense que Kamavinga, ça reste un joueur vraiment box to box, qui doit beaucoup se projeter et qui doit avoir pas mal de liberté et qui serait plutôt dans ce cas-là dans un profil à Adrien Rabiot qui pour l'instant, que ce soit en club ou en équipe de France, est excellent.
Beaucoup d'appels ce soir au 32-16. Rodolphe, merci beaucoup d'être passé nous voir.
Je vous remercie, continuez votre belle émission. Je peux faire juste une petite dédicace?
Bien sûr, Rodolphe.
Merci beaucoup. Tess, Robin, Zachary et puis le petit Raphaël, je vous embrasse fort.
Il y a une équipe de foot chez toi. Pas une équipe de basket, un S1.
Une équipe de five.
Pourquoi ça, c'est tous tes enfants là, Rodolphe?
De five. Trois, moi et le fils de ma femme.
D'accord.
Ah, okay. On les salue.
Avec toi dedans, d'accord. Vous faites un five.
Salut Rodolphe.
Bravo à vous.
Merci. À bientôt. Bye bye. Farid est là, également supporter de l'équipe de France au 32-16. Salut Farid.
Salut les gars.
Bienvenue dans l'after Farid.
Salut Farid.
Est-ce qu'il peut opposer à Rodolphe une équipe de five? Je sais pas combien ils sont chez lui.
Est-ce qu'il y a des enfants, Farid?
Pardon?
Est-ce que t'as des enfants?
Oui, j'ai un fils.
Ça va être compliqué.
Ça va être 2-5, ça sera pas possible.
Tu te rappelles, Daniel, est-ce que t'as déjà joué au Jerky Ball?
C'est quoi ça?
Ah, t'es sur des plots un peu, non? Enfin, t'es surélevé?
Non, pas du tout. Okay, le Jerky Ball, c'était un five qu'ils avaient créé au début des années 2000 à 2-2. C'était en mode un peu.
Mais c'est pas un five alors?
Ouais, pas un five, mais je veux dire.
pour compter en néerlandais, il y a du monde, mais en anglais, c'est plus compliqué. Hein.
Nous, on appelait ça un five dans le sens où c'était un foot réduit, quoi.
Ah, mais 2-2, j'ai déjà fait 1000 fois.
Ça s'appelle un Jerky Ball. Et il y avait des vitres autour. C'était super intense. C'est un peu en mode squash, quoi.
D'accord.
Ah bah, en mode paddle à la limite alors. Peut-être.
Un peu en mode paddle.
Bon, laissez parler Farid, là, il n'en a rien à foutre de vos histoires de 2-2. Là.
C'est toi qui as commencé avec le 5-5.
Farid?
Oui.
On parle 2-2 ou de l'équipe de France? C'est toi qui choisis.
Dites-nous sur le hashtag si vous connaissez le jerky.
C'est 4-0 plutôt. Hein.
C'est clair. Ça t'a plu, cette équipe de France?
Bah oui, bien sûr, bien sûr. Bah écoutez, moi, ce que je veux revenir, c'est déjà en premier lieu sur ce score extraordinaire. On sort à peine d'un 4-0 contre les Pays-Bas, quoi. Donc c'est assez extraordinaire pour le noter. Mmh. Ensuite, bon, bien sûr que ce soir, c'est une nouvelle aventure qui démarre. C'est le premier match d'après, quoi. Après finale de Coupe du Monde perdue, c'est le premier match d'après départ Loris, départ Varane,
Mandanda. Oui, non, c'est un vrai, t'as raison, enfin, c'est un vrai tournant. Moi, j'ai vu ce match comme l'affirmation d'une nouvelle équipe, une nouvelle histoire, avec l'échéance à venir très vite, hein, parce que l'Euro, bah, c'est dans un an et trois mois, quoi.
Exactement, oui. C'est une nouvelle aventure, l'aventure.
Voilà, exactement. Pour l'instant, il y avait une continuité dans le mandat Deschamps qui s'éternise. Et dans ce mandat, il y a eu cette finale, 18 décembre 2022. Là, il y a un virage. Voilà, Deschamps est toujours là, mais pour moi, l'équipe, c'est plus la même. Il reste que Griezmann, même Mbappé. Alors tout le monde va me dire, mais il était déjà là, il est champion du monde 2018. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un autre Mbappé, parce que c'est un Mbappé qui va être capitaine. C'est un Mbappé qui a grandi, qui est complètement homme, alors que c'était le petit génie de l'équipe. Maintenant, on va pas lui demander d'être simplement le petit génie de l'équipe. Il a le brassard, ça doit être le patron de l'équipe. C'est encore autre chose.
Ouais, bien sûr. Et puis il y a eu un roulement dans le groupe, quoi. Il y a 4-5 nouveaux qui ont intégré ce groupe. Il y a 4-5 cadres qui en sont partis. Je veux dire, ce match-là, là, il est coincé en pleine saison. Mais finalement, ce match-là, c'est quelque part, c'est le match du mois de fin août. Vous savez, quand la grande compétition finit, que les championnats reprennent et que fin août, les gars reviennent en sélection, il y a un nouveau groupe, comme quand on
était petit. C'est un peu vrai, sauf que souvent, ce match-là, il est pourri, alors ouais. Que ce soir, il était très bien.
Il fait taper par la Biélorussie 1-0, en général.
Ouais, en général, c'est plus un match amical, les matchs fin août.
Ouais. On parlait de l'attaque il y a quelques minutes, Farid, et de Colomoni. On a passé toute la semaine à faire des débats.
J'ai noté un désaccord avec vous, hein.
Alors, bah, vas-y, justement, parce que
vous avez beaucoup parlé de vitesse et de phase de transition, mais ouais. Moi, pour moi, ce soir, sur les 4 buts, bon, il y en a un qui est sur coup de pied arrêté, les 3 autres, c'est plutôt des buts sur récupération haute, hein, sur un pressing haut.
Mais moi, je suis assez d'accord avec ça.
Pourquoi la transition, elle peut pas être en phase haute?
Non, mais quand on parle de vitesse, donc j'imaginais que vous parliez de prise de profondeur, tout ça. Mais moi, je trouve que les buts qu'on a marqués ce soir.
Regarde le but.
Il n'y a pas que les buts qui comptent. Il y a également les occasions
Le but de Mbappé, si c'est pas de la prise de profondeur, tu sais, il n'y a pas que la profondeur sur 40 mètres. Hein. À partir du moment où tu es dans le dos de la défense, tu es dans la profondeur, mon cher Farid.
Bien sûr, Kevin, mais regarde le premier but, c'est de mémoire.
Le premier but, c'est une récupération très haute, c'est une
consécutive. Dans la verticalité,
oui, c'est consécutif, c'est vrai, à 1 minute 30 d'intense pressing récompensé immédiatement.
Ouais, tout de suite.
Bon, j'appellerais pas ça de l'intense pressing. C'est l'équipe de France c'est pas de l'intense pressing, Daniel. Non, ils vont pas chercher à l'entrée de la surface. Ils restent en bloc.
Attends, est-ce qu'on peut regarder la minute 30? Mais j'étais même super étonné. Ils sont super hauts.
Mais non,
ils vont les chercher même aux abords de la surface.
Ils restent en bloc médian haut. Et ensuite, à la moindre perte de balle, c'est tacle de Griezmann, passe dans la verticalité, centre en retrait, but.
Non, juste avant le but, les trois, là, franchement, le bloc est très haut et les trois font un pressing qui va carrément limite à la surface. Vraiment. Revois la première. C'est assez rapide, hein, parce que.
Je l'ai dit pendant la première minute, donc je le rappelle.
C'est franchement rien du tout, tu vois. C'est un début de match. Mais il se trouve qu'il y a eu un but dans ce moment-là.
Il y a même une perte de balle avant sur la mauvaise passe de Taylor, puis l'autre mauvaise passe.
Un gros pressing. Moi je trouve.
Farid.
Position haute, mais pas un pressing.
Oui.
C'est sévère. Hein.
Vas-y, Farid. Vas-y, Farid.
Ce que je veux dire, c'est que quand je parle de phase de transition, je pense que quand même, quand on marque déjà au minimum le premier but, qu'on puisse s'entendre là-dessus, on marque le premier but à un moment donné où les Pays-Bas sont bien en place. Il n'y a pas de phase de transition. Je veux dire, leurs quatre.
Mais bien sûr que si. Les Pays-Bas qui perdent le ballon sur un très bon tacle de Griezmann intercepte le ballon et tu pars en transition. C'est la définition même de la transition. Tu sais que je crois que c'est.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que transition, c'est contre-attaque.
La transition, c'est tu n'as pas le ballon, tu le récupères et tu marques dans les 10 secondes.
Ça aurait pas été Griezmann qui aurait été à la conclusion.
Mais non, mais là, tu confonds transition et contre-attaque sur 80 mètres. Mais une contre-attaque et une transition rapide après une récupération haute dans le bloc, dans le bloc très haut, c'est aussi une transition. Tu sais que deux tiers début, juste laisse-moi finir, Farid. Deux tiers début au plus haut niveau sont marqués moins de 10 secondes après la perte du ballon. Ça s'appelle de la transition.
Oui, mais au début, vous avez insisté sur la puissance physique et sur la vitesse des Koeman, des
Colomani. C'est la vitesse, c'est pas forcément la vitesse sur 40 mètres, c'est la vitesse d'exécution.
On a pas eu trois buts sur la vitesse pure, sur
non, mais en fait, vous comprenez pas, vous comprenez pas, c'est pas ça. Tu peux aller vite, c'est dans la prise de décision, c'est dans ce que tu fais, dans l'exécution. On parle pas de contre-attaque avec un mec qui cavale façon Mbappé parfois au PSG, dans certains matchs.
Façon Koeman sur le corner en deuxième mi-temps.
Oui.
Farid.
Oui.
Merci d'avoir été là ce soir.
Ah ben je vous en prie les gars.
Salut Paris.
Et bravo Griezmann, attention, parce que Griezmann dans ce rôle de numéro 8, je vous assure qu'il est épatant. Hein.
Bah tiens, parlons-en de Griezmann. Ouais, salut Paris,
à très vite. Écoute, Griezmann, on en a dit que du bien pendant la Coupe du Monde. Ce soir encore, on peut en dire que du bien. Il a un point noir, c'est cette finale. Cette finale où il est complètement...
C'est la Coupe de cheveux aussi.
Non, je m'en fous, c'est ce qu'il y a avec ses cheveux. Mais effectivement, cette finale qui est horrible, où il est complètement à côté de la plaque.
Non, mais c'est pas que lui, là, c'est toute l'équipe.
On parle de Griezmann.
Oui.
On parle de Griezmann, qui était en plus le taulier de cette équipe au milieu de terrain, l'organisateur. Donc, Coupe du Monde, on n'en dit que du bien, on est épaté par tout ce qu'il fait. Il y a ce point noir, cette finale où il est à côté, où il sort de façon tout à fait anormale pour lui dans un match. Bon, ben voilà, il y a ce point noir, et là, ce soir, il revient, et il retrouve sa place.
Il faut le dire, parce que moi, je faisais partie de ceux qui pensaient que ça allait être très, très difficile, après cette période difficile, au Barça, de revivre ou de connaître une deuxième carrière pour Antoine Griezmann, et il a réussi à le faire, et c'est parce qu'il a sûrement un mental hors pair. On voit que c'est un gars bien, on voit que c'est un gars qui est très professionnel, qui n'a jamais rien lâché. On voit aussi qu'il a connu forcément des moments difficiles, mais il a réussi à se réinventer dans un poste un peu plus bas en équipe de France. En club, il joue toujours assez haut quand même. Il est souvent à la finition des actions. Mais franchement, bravo à lui, parce que c'est le plus dur dans une carrière de sportif de haut niveau. C'est arriver à se remettre en question et à se réinventer.
Beaucoup de messages ce soir sur le Direct Studio ou sur la chaîne Twitch RMC Sport dans le chat, notamment sur le Jorky Ball. Le Jorky Ball, tu as réveillé des gens. Watton écrit Jorky Ball à Alfortville. Seule l'élite peuvent connaître Kevin. Oui. Vive le Jorky 2, dit Jacques Sud-Dezen sur le Twitch RMC Sport. Tu n'es pas tout seul, Kevin. Voilà. Je remercie Farid d'avoir été là. Et j'accueille Laurent qui a fait le 32-16. Bienvenue dans l'After, Laurent.
Salut l'After.
Salut Laurent.
Laurent, tiens, on était sur Griezmann. Tu rejoins tout le monde. Taulier ce soir, Griezmann.
Ouais, taulier, mais comme depuis déjà quelques mois. C'est le poète dit que la vraie nouveauté naît toujours avec le retour aux sources. Alors moi, je suis le théâtre de service. Hein, chaque fois que je vous appelle, c'est pour l'équipe de France.
C'est Thibault Leplat.
Ben non, mais je suis...
C'est Jérémy Lopez.
Non, ça c'est Edgar Morin. Edgar Morin, c'était pas le moment, on pourrait faire un quiz hein, sur les auteurs. Là, ce soir, je vous appelle en fait parce que je trouve que ce qui se passe ce soir, et pas le match en soi, on va pas faire les footics, surtout pas ici, prouve qu'il fallait absolument que Deschamps reste. Contrairement à beaucoup de choses qui se sont dites sur cette antenne et ailleurs.
Oula.
Ah ouais, attention, je mets un truc là, je pense que je vais énerver Daniel, j'espère pas, parce que vraiment Daniel est mon maître philosophique footballistique. Mais
Décidément, tu vas loin.
Non, mais je le pense, c'est sincère. Je crois que là, ce qu'il y a ce soir, ça me fait penser finalement à ce qu'avait dit Joachim Löw en 2014, quand l'équipe de France avait été éliminée par l'Allemagne. Quand il avait gagné la Coupe du Monde, il avait dit « Soyez heureux et heureuses, Français, Françaises ». Il n'avait pas dit comme ça. Hein. Mais il avait dit « Parce que vous avez une génération qui arrive, vous allez être vraiment heureux pendant les 4-5 ans qui viennent ». Ben là, en fait, Deschamps, il est pas bête. Il a compris qu'il y avait une génération de dingues qui arrivait derrière. La moyenne d'âge ce soir, à part Griezmann, qui est notre vieux à 32 ans. Dire qu'on est vieux à 32 ans, je vous imagine même pas. Moi, je me vois déjà à l'EHPAD avec mes 40 balais. La moyenne d'âge, c'est 24 ans ce soir. Et faut voir ce qu'il y a sur le banc. Faut voir ce qui arrive en équipe espoir. Et en fait, c'est pour ça qu'il fallait garder Deschamps. Parce qu'avec Deschamps, on a un socle. Lui, il a remis en place ces principes qui sont franchement pas très bandants.
Mais hein. Laurent, alors pour le coup, moi, je me place vraiment au milieu, mais Deschamps ou pas Deschamps, si ça avait été quelqu'un d'autre, il aurait eu les mêmes joueurs.
En l'occurrence, j'arrive pas tellement à comprendre ton raisonnement, parce que je comprends tout ce que tu dis sur ce que a dit à l'époque Löw, sur la génération. On a parlé effectivement de toute cette nouveauté, de cette fraîcheur suite à cette finale de Coupe du Monde. En quoi s'il s'en va, comme il en avait envie avant la Coupe du Monde, il a changé d'avis en cours de route, je pense, parce que c'est quelqu'un de très malin et de très opportuniste, qu'effectivement il a vu qu'il y avait un réservoir et qu'il avait encore quelque chose à faire et que c'est la plus belle vie qu'il peut avoir d'être sélectionneur. En quoi, si Zidane prend l'équipe de France, comme à mon sens il aurait été bon et normal que ça soit, en quoi Zidane ne part pas avec les mêmes joueurs et n'est pas capable d'offrir le spectacle qu'on a vu ce soir? Franchement, alors, je comprends pas.
Je peux te répondre à ça, Daniel.
Vas-y, essaye assez vite, Laurent, s'il te plaît. Il y a beaucoup de monde en train d'essayer.
Assez rapidement, ouais. Zidane, il aurait dû remettre vertèbre par vertèbre et construire sa colonne vertébrale en étant finalement un sélectionneur qui n'a aucune expérience. Deschamps, il l'a déjà, la colonne vertébrale.
Mais
la colonne vertébrale,
elle a changé, puisque Maignan a changé, la charnière a changé, l'attaque, le neuf a changé également. En quoi Zidane, et c'est quoi cette histoire d'expérience? Zidane, il a 3 Ligues des Champions, il a entraîné pendant des années, il a été un joueur de top niveau galactique. En quoi ce gars-là n'a pas d'expérience?
Je pense que pour moi, Deschamps a une... Daniel, Zidane n'a pas l'expérience de Deschamps en termes d'entraîneur et en termes de sélectionneur. Il n'y a pas photo.
Il n'y a pas photo de nombre d'années. Mais comment tu veux dire que comment c'est possible qu'il n'y ait pas photo?
C'est pas parce que Zidane a gagné 3 Ligues des Champions. Et je suis ni un pro-Zidane, ni un pro-Deschamps, hein, sincèrement. C'est objectif.
Et tu sais ce que ça veut dire, gagner 3 Ligues des Champions?
Oui, mais il a moins d'années d'expérience. Il a moins
d'années
d'expérience.
Mais qu'est-ce qu'on met? Mais c'est n'importe quoi. La qualité d'un entraîneur ou d'un sélectionneur, c'est pas le nombre d'années passées sur le banc.
Sinon, tu
me fais penser à Trapattoni qui était revenu. Il avait 120 ans. Il a repris l'équipe. Ou Lippi quand il était revenu en 2010. Ou les mecs qui reviennent. Roy Hodgson, il est formidable. Il a repris Crystal Palace. Alors, qu'est-ce que tu racontes sans déconner?
Laurent, les gars, il faut.
C'est incroyable.
Il faut vraiment arrêter avec cette histoire de il a plus d'expérience.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est bidon,
mais,
ça.
Mais ça veut rien dire. Pep Guardiola, il a pris l'équipe première du Barça, il avait jamais entraîné une équipe professionnelle.
Ouais.
C'est la plus grande équipe de l'histoire
du football.
Mourinho,
il a quoi comme expérience quand il enchaîne 2003-2004?
De club, vous ne parlez pas de sélection.
Mais qu'est-ce que ça peut faire, les sélectionneurs? Alors Fernando Santos au Portugal, il est hyper expérimenté. Au bout d'un moment, ils voulaient tous le mettre dehors. De quoi tu parles?
Mais Fernando Santos, avant de prendre la sélection.
Regragui, il est arrivé, il a pris en cours de route, il a fait un exploit que le Maroc avait jamais fait.
Fernando Santos, il a gagné l'Euro avec le Portugal, il avait pas été sélectionné, il était sélectionneur depuis 3 ans.
Il était que vieux. Ouais. Le seul truc qu'il avait, c'est qu'il était vieux.
Non, mais les gars, je pense que il faut pas confondre la qualité d'un entraîneur et son expérience. Bien sûr que l'expérience ça aide, mais honnêtement ton propos, moi c'est ton avis, mais de dire que il fallait absolument garder Didier Deschamps parce que il y a une colonne. Ça aurait pu être n'importe quel entraîneur.
Laurent, excuse-moi, juste pour conclure et rapidement, s'il te plaît, il y a beaucoup de monde, mais vas-y, pour conclure.
Ouais. Pour conclure, effectivement, il ne faut pas confondre l'expérience et la qualité d'un entraîneur. Je suis d'accord avec vous. On ne sera pas d'accord ce soir. Et juste un immense merci pour l'émission d'hier soir. Et pour tout le travail qui a été fait, j'étais pas au courant de tout. Enfin, je savais, mais de loin, mais de l'histoire du PSG, d'Amraoui, c'est un travail journalistique magnifique.
Laurent,
merci beaucoup.
Essaye pas de te remettre Daniel dans la poche comme ça, prenez-le.
Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup parce que ça c'est pour le coup vraiment très important.
Et d'ailleurs, Laurent,
plus que la vie sur un match.
Reste à l'écoute parce que d'ici une petite demi-heure, il y aura les dernières infos, les derniers remous de cette affaire avec Daniel. Donc reste à l'écoute. Merci Laurent. Passe une bonne soirée.
Salut
Laurent. Bye bye. 23h18. Continuez à nous appeler au 32-16. On est en direct jusqu'à minuit. L'after continue avec Daniel Riolo. Avec Kevin Diaz. Dans quelques instants, Yoann Crochet sera là pour nous donner son ressenti sur ces Pays-Bas quand même, parce qu'on s'extasie un petit peu, pas trop sur ce 4-0, mais ça valait quoi ce soir les Pays-Bas. Vous êtes là en direct également sur le Direct Studio ou sur Twitch, la chaîne RMC Sport.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
23h22, merci d'être là ce soir en direct, ce vendredi soir avec Kevin Diaz et Daniel Riolo. L'after en direct jusqu'à minuit après la victoire de l'équipe de France 4-0. Qui dit vendredi soir dit after en direct vidéo sur la chaîne Twitch RMC Sport avec Daniel. Ce soir, vous êtes très nombreux doctos dans le chat. Daniel sur Twitch, incroyable. Bon, en même temps, c'est le cas toute la semaine, hein, les gars. Daniel, il est la semaine. Ça parle aussi des révélations là. On demande les révélations. Rendez-vous dans un quart d'heure, 20 minutes pour la suite et peut-être fin. Je suis pas sûr. Des révélations de Daniel sur l'affaire.
Après, ça ne dépendra pas de moi. Moi, normalement, ça devrait s'arrêter ce soir. Si après, il y a des gens qui continuent à vouloir faire les malins, bon, on répondra.
Il y a là, d'ici un quart d'heure, 20 minutes d'ici là. Donc, l'équipe de France, toujours, et cette victoire.
Il y en a qui vont parler des Pays-Bas en duo, là. Ils vont faire un jerky
avec Johan Crochet.
Il n'y a pas grand chose à dire. Hein.
C'est dans quelques minutes. Je vous propose juste avant d'aller sur Johan.
Poser, en tout cas.
On les posera.
On pose des questions.
Mais accueillons Félicien, qui nous a appelé supporter de l'équipe de France au 32-16. Salut Félicien.
Bonsoir les amis.
Bienvenue dans l'after.
Salut
Félicien.
Salut Félicien.
Merci.
Alors, Deschamps, on arrête. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, Daniel?
Joli prénom. Ah. Un peu désuet, mais que j'aime beaucoup.
Merci beaucoup Daniel, ça me fait plaisir venant de toi.
Bah surtout prénom avec qui a fait briller la culture française. La Koum Mania, Félicien.
On va s'arrêter là.
Ouais, Thibaut, il est comme ça. Hein. Le vendredi, c'est.
J'avais oublié.
Ça m'embête que tu cites pas Jean Ferrat. Voilà.
Bon Félicien, là. C'est sur le foot.
Oui. Dis-moi.
Qu'est-ce que t'en dis de ce match? Bah, c'est toi, dis-moi. Enfin, t'as envie, hein?
Moi, je me suis réjoui de ce match, en fait, déjà par rapport au gardien. Déjà, on a vu un vrai gardien. Non pas que Loris est un mauvais gardien, mais pour moi, le penalty, il a été arrêté avant même qu'il soit tiré.
Ouais, mais ça, les amis, avec ça, moi, je veux bien, mais il faut pas non plus fantasmer à mort. On le sait que Maignan est un très bon gardien et qu'il a comme particularité d'être bon sur pénaux. Mais ça existe pas, les gardiens qui arrêtent tous les pénaux. Faudra pas à croire que, alors qu'il y ait que les gens sachent qu'il est bon dans cet exercice et que ça joue psychologiquement sur le tireur. Mais là, vraiment, moi, Mac Maignan, c'est un gardien que je kiffe depuis longtemps. Je l'aime bien, mais il faut aussi voir Memphis le tire super mal.
Les gars, attends, juste Maignan dans un instant. Première réaction de Aurélien Tchouaméni en direct depuis le Stade de France.
Non, il nous a aidé comme il le fait toujours.
Vous avez été tranchant et rapide dès le départ.
Oui, c'était quelque chose qu'on voulait faire. On sait que mieux on aborde le match, mieux on le commence. Forcément, après, c'est plus facile durant le match. Donc, notre entame de match, j'ai envie de dire qu'elle a été parfaite. On a été solide, on a marqué des buts. Et ça nous a permis, je dirais pas de gérer jusqu'à la fin du match, mais voilà, d'avoir le maximum de confiance.
Dernière réponse.
Cet avant-match à la mi-temps.
Ah, je peux pas tout dire. Hein. Mais non, c'est sûr qu'avant le match, il a demandé à tout le monde d'avoir le même état d'esprit. D'avoir un esprit conquérant. L'équipe des Pays-Bas, diminuée ou pas diminuée, c'est la 6e nation mondiale. Donc, on se devait de faire le job, comme j'ai dit auparavant, et donc on est content.
Et voilà, Aurélien Tchouaméni, première
réaction. Excusez-moi deux secondes sur Tchouaméni.
Il parlait de Mbappé sur la dernière réponse.
Et sur cette équipe de France en général, j'avais dit pendant la Coupe du Monde que cette génération de jeunes gars, là, je les trouvais assez épatants. On a quand même eu pendant des années des joueurs. Qu'on critiquait beaucoup, même quant à leur à ce qu'ils représentaient, ce qu'ils affichaient, la façon même qu'ils avaient de parler, qui était souvent un peu désagréable. Ou on n'est pas tous pareils dans une société comme la France, et on a tous des sensibilités différentes. Et parfois, il y a des gens qui pouvaient être un petit peu heurtés par la façon qu'ils avaient, soit de se comporter, soit de parler. Là, franchement, les gars, là, moi, je trouve vraiment tous, hein, t'entends Koundé, t'entends Tchouaméni, on n'en parle même pas. De qui tu dis?
Colomoigny.
J'ai l'impression qu'on a, une bande de jeunes, parce que c'est vraiment des jeunes gars. Ouais. Et pendant longtemps, je me souviens, même dans l'after, on me disait, ouais, mais t'es pas indulgent parce qu'ils sont jeunes. Un peu à l'image de ce que disait Mbappé très tôt dans sa carrière. T'as le droit d'être jeune et de pas être un petit merdeux. Et des petits merdeux, on en a traîné pendant longtemps en équipe de France. Là, franchement, ces gars-là, moi je les trouve vraiment formidables quand ils parlent, ils s'expriment bien, ils disent, ils cherchent pas à manier la langue de bois qui leur fait faire des formules à la con à l'arrivée. Ils me plaisent, quoi. Je me doutais que j'allais aimer cette équipe parce que je sentais venir toute cette bande là, mais vraiment
on avait eu un portrait de Tchouaméni à l'époque où il débutait, où il était encore jeune, il débutait pas dans le football de haut niveau, mais il était à l'AS Monaco. C'est Clément Brossard qui faisait un portrait un samedi soir où il nous disait que Tchouaméni était un grand fan.
Absolument, t'as raison.
Notamment de manga et aussi de la culture américaine, où il est fan de NBA, il regarde les matchs la nuit, et tu vois quand même toujours les sportifs américains être plutôt présentables dans les interviews, être assez habile dans leur communication, etc. Et je pense que toute cette, à l'image de Kylian Mbappé, qui est un grand fan aussi de sport américain et de NBA, on voit quand même qu'ils ont été influencés par la culture américaine sportive.
On était sur Maignan avant cette petite digression, mais très
intéressante. À l'extrême.
Exactement.
Et n'oublions pas aussi,
notamment sur les réseaux sociaux,
c'est le cas de beaucoup d'entre eux. Au-delà de peut-être une éducation qui est très bien faite, et tant mieux pour eux d'ailleurs, c'est, il y en a aussi pas mal qui sont partis assez vite. Et je pense que quand ils se retrouvent dans le bain de club à l'étranger, je pense que c'est pas plus mal. Je suis pas sûr que notre société se porte parfaitement bien et favorise l'épanouissement des sportifs de très haut niveau.
Non, mais même de toute façon, que tu sois sportif ou pas, quand tu vas vivre à l'étranger, ça t'apporte de toute façon un recul sur toi-même déjà en tant que Français, mais aussi sur ton pays, sur les qualités, sur ce qui peut être les axes d'amélioration, même au niveau social. Forcément, vivre à l'étranger, Erasmus ou sportivement, c'est super intéressant.
Un grand paradoxe, tu deviens quand tu pars très tôt à l'étranger plus respectueux en règle générale d'une société et des institutions.
Exactement.
Jean-Félicien, on n'était pas parti là-dessus, mais tu vois, on a écouté Tchouaméni. Non, mais alors Félicien, parce que cette équipe de France,
Félicien voulait parler, il a rien dit.
Non, mais juste avant de relâcher la parole à Mike.
Ah oui, parce qu'il a été parti sur les gardiens.
Voilà, juste Félicien. Il y a un crochet qui a envie de te parler de Weghorst et de.
Sur Mike Maignan. Pour le coup, j'ai joué contre Mike Maignan deux fois en championnat, donc lorsqu'il jouait avec la réserve du LOSC. Honnêtement, un gardien impressionnant. Impressionnant. Et Daniel, c'est un gardien. Il prend une place énorme dans le but.
Toujours kiffé.
Tu le vois, non, mais t'as l'impression qu'il. C'est Hulk. T'as l'impression qu'il est plus grand que ce qu'il n'est.
Mais moi, j'ai toujours kiffé ce gardien.
Sur un pénalty, il a une qualité qui est énorme. Déjà, il est grand. Il fait 1m92. Et donc, un peu comme Donnarumma, notamment à l'Euro, pas forcément avec le PSG, c'est ce genre de gardien moderne qui parle en rallonge. Et Lloris n'avait pas cette allonge-là.
Ah bah ça,
s'ils choisissent,
je veux pas te contredire sur les pénaux. Mais Lloris, c'est des gardiens. Il faisait exprès de partir du mauvais côté.
Si c'est des gardiens, s'ils choisissent le bon côté, ils ont une telle allonge que quasiment impossible
ce que je voulais
de le
dire,
marquer.
Ce qui m'agace un petit peu, et pourtant vraiment, je me fais l'avocat du diable parce que Lloris, c'est pas le gars qui me faisait triper et Dieu sait si. Mais ne jetons pas tout lors du Mondial 2018.
Je parle juste des pénalties.
Lors du Mondial 2018, Lloris, je me souviens de certains matchs où il a été incroyable.
Mais après, les pénalties, c'est comme les tireurs. Les gardiens, ils ont des spécialités.
Après, effectivement, il y avait cet exercice-là où il n'était pas bon. Mais je rappelle qu'un mec qui a marqué l'histoire des Bleus comme Barthez, c'était pas non plus sa qualité première.
Ouais,
les pénaux, ça arrive.
Pas d'allonge.
Néanmoins, je préfère effectivement, comme tu le dis, un gardien qui. Je pense que Mike va devenir un très grand gardien et donc international aussi, parce que pour l'instant, il ne l'était pas.
Le mot de la fin, Félicien, au 32-16.
Ouais, c'est ma première fois avec Daniel, je m'en souviendrai. Ah. non, mais voilà, rapidement, oui, c'est ce que je disais en fait. Maignan, déjà, il a 20% du boulot qui est fait parce qu'on sait que il est bon dans cet exercice. Après, voilà, il impressionne un peu, donc voilà, t'as la moitié du boulot qui est fait. Voilà, après le reste, c'est 50-50. Voilà, après, comme vous avez dit, de toute façon, vous avez tout dit ce soir, la défense, il y a du monde qui pousse derrière. Saliba Fofana, c'est très bon aussi. On a une super génération en attaque. Quand Nkunku et Dembélé vont revenir, qu'est-ce qu'on fait?
C'est vrai aussi qu'il y a Nkunku. Hein.
Ouais. Voilà. Non, j'ai vraiment trouvé que au-delà du match, que vraiment c'était un passage de témoin entre deux générations et que les jeunes et Mbappé ont pris le pouvoir et voilà. Et pour moi, comme t'as dit Daniel, c'est vraiment des bons gars en fait, vraiment, et ça fait plaisir de les voir. Et puis après, juste pour finir, juste pour Kevin, j'ai joué au Jorky Ball, c'était chômé.
ils connaissent pas. Mais...
Non, ils savent pas. Mais j'étais meilleur au Jorky Ball que sur le terrain de foot en vrai.
Ah, ça, c'était un problème par contre.
Voilà. Et puis Daniel, juste merci pour ton travail d'investigation, de journaliste, de retranscription et
c'est pas fini.
Tu nous as dit hier.
C'est pas fini, Félicien. Reste à l'écoute dans une dizaine de minutes, il y a la suite.
Puis, je crois qu'il y a un livre qui arrive.
Juste,
vas-y, très vite, Félicien.
Je me réjouis d'acheter le livre dès sa sortie. Et puis une pensée pour Kiram Rawi et toutes les victimes collatérales de cette affaire.
Merci Félicien d'avoir été là ce soir.
Merci.
Et à bientôt.
Merci beaucoup.
Bye bye, tu reviens quand tu veux dans l'after. Juste avant Yoann Crochet, une réaction de Didier Deschamps en direct.
Qui s'entendent bien et qui fonctionnent bien ensemble, qui ont toujours fonctionné, qui ont envie, qui ont le même objectif que l'équipe de France continue d'être performante. Voilà. Si ça a duré deux minutes, la déception, même si je vais revenir là-dessus légèrement, d'Antoine, mais voilà, Antoine, je vous l'ai déjà dit, et avec Kylian, il n'y a pas le moindre souci, et comme l'ensemble du groupe d'ailleurs, c'est ce que je leur ai dit je vais pas rentrer dans le détail, mais dans ma causerie d'avant le match, toutes les ondes positives qu'ils ont pu dégager, ce groupe-là, depuis lundi, la chose la plus importante, c'était de les transcrire sur le terrain avec ce match-là. Après, est-ce que c'est un symbole pour vous? C'est une très bonne chose. Ils font partie des joueurs offensifs et avec, ils peuvent être passeurs, buteurs, et ça amène de la diversité et c'est plus difficile pour l'adversaire de nous bloquer quand il y a du danger qui vient d'un peu partout, quoi.
Plus bavard que Tchouaméni, Didier Deschamps. Didier,
Baptiste Després, Le Figaro. Marcus Thuram nous disait cette semaine que la génération Mbappé avait peur de rien. Toi qui la côtoies au quotidien, non mais comment tu pourrais la décrire et qu'est-ce qu'elle t'inspire?
On va voir le début.
La jeune génération, moi je la prends avec ses côtés positifs par moments, mais c'est pas spécifique à l'équipe de France. Ils veulent tout de suite. J'avais entendu ça aussi un peu en 2018. On va prendre le pouvoir. Les jeunes, ils veulent le pouvoir rapidement, mais ça met des fois un petit peu de temps. Mais il y a beaucoup de qualités. Voilà, ils se posent pas de questions. À 18, 19 ans, ils vont dans les grands clubs à l'étranger. C'est des compétiteurs. Donc, évidemment, dans les clubs où ils jouent et être confronté à ce quotidien, c'est important. Ils ont des relais à prendre. Ils ont des codes peut-être différents aussi, des centres d'intérêt différents, notamment quand c'est leur première sélection et qui chante. Je comprends pas tout à ce qu'ils chantent, mais bon, c'est pas trop mon style. Il y en a un quand même, il nous a fait plaisir, mais c'est un peu plus rétro et ça nous a fait du bien, quoi. Mais c'était un membre du staff, donc. Mais il faut s'adapter, c'est pas eux à s'adapter à nous. Il y a un cadre, bien évidemment, un cadre de vie, cadre de travail, mais voilà. Le potentiel est là, ils ont besoin d'être encadrés aussi, mais ils sont faits, ils ont tout pour être au niveau et ils n'ont pas envie de perdre de temps, donc ça demandera confirmation.
Didier Deschamps, moi, au micro de Fabrice Hockin.
Moi je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit, Didier Deschamps, là, parce que même si il a son sa forme de langage toujours où il essaie de dire le moins possible, mais je trouve quand même, déjà on voit qu'il est content et c'est normal parce qu'il a forcément en tant que compétiteur dû digérer cette finale perdue et il a dû connaître des moments quand même compliqués sur les dernières semaines avec tout ce qui s'est passé, mais en tout cas je le trouve intéressant et il est assez juste dans sa définition de la nouvelle génération.
Cette histoire de ils veulent tout très vite, ils veulent prendre le pouvoir, j'ai un peu de mal à comprendre parce que
c'est quand même une réalité.
Mais ça, oui,
ils ont moins. En fait, le truc c'est qu'ils ont moins, et peu importe le niveau d'ailleurs, ils ont moins de recul sur les étapes à franchir pour y arriver.
D'accord, mais ça
c'est quand même énorme.
Oui, mais ça sous-entendrait quelque part que dans cette volonté d'aller vite,
ils oublient des étapes.
Ils soient peut-être irrespectueux. Ah non, c'est pas l'impression que j'ai. Alors que pendant une époque, on se souvient d'anecdotes en équipe de France où les mecs.
Début des années 2010, on a eu un.
Oui, voilà. Revenons pas là-dessus, mais je crois que tout le monde a compris. Ouais. Là, on est quand même en présence de mecs qui, effectivement, partent tôt, mais sont hyper vite, méga professionnels. À la différence de ceux qui veulent le pouvoir, le prendre vite, mais sans être professionnel. Quand tu lis cette semaine l'interview, en plus, il n'est pas tout jeune, il a 24 ans, Kolo Muani, quand même. Hein. On n'est pas en train de parler d'un gamin de 18-19 ans. Mais comme il n'a que 3 ans chez les pros, on va dire que c'est un très jeune pro. Quand tu prends son interview, que le mec que les Nantais, la première fois qu'ils l'ont vu, ne trouvaient pas bon, et qu'il, 3 ans après, est titulaire en équipe de France. Quand tu vois qu'entre les deux, le gars, il s'est dit « Bon, j'ai écouté mon papa qui m'a dit de plus me lâcher, d'être professionnel, machin. » Qu'il a pris 3 mecs en privé dans son staff. Nutritionniste, entraîneur de... Je me souviens plus exactement ce qu'il disait. Mais bon, des gars pour bosser plus. Enfin, les mecs sont non seulement structurés, bien entourés...
Et déterminés,
tu as raison. Voilà, c'est le bon mot. Donc, dans cette volonté d'aller vite, ils ne font pas mal. Ils vont vite, mais en faisant bien. Après, est-ce qu'ils seront encore là dans 10 ans ? on n'en sait rien. Peut-être qu'aujourd'hui les choses vont plus vite et que la carrière ça dure moins longtemps. Au bout de 3 ans, 4 ans, c'est terminé.
Il parlait aussi, dernière phrase. Il parlait aussi de cette fameuse phrase avec laquelle je suis pas du tout d'accord, mais quand Kylian Mbappé avait dit à moi on me parle pas d'âge. Je pense que là il s'était trompé.
On est toujours en direct sur Twitch, la chaîne RMC Sport. Siguin écrit dans le chat. En vrai, on dirait le daron de la famille, c'est nature. Didier Deschamps qu'on vient d'écouter. On est en direct jusqu'à minuit, comme tous les soirs, avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz, avec vous tous au 32-16 et avec Johan Crochet, spécialiste ce soir des Pays-Bas. Salut Johan.
Salut Thibaut, bonsoir à toutes et à tous.
Ah, allez,
il y a des questions pour toi.
Votre
ce
duo,
soir.
C'est parti. Racontez-moi les Pays-Bas.
Je vous laisse Johan, j'ai assez parlé.
Équipe B ou pas équipe B, Johan?
Oui, équipe A prime, équipe B. Il manque 6 titulaires, donc c'est difficile de pas dire que
si... c'est quand même équipe B.
Ouais, c'est ça. Après, ça. Ce que j'ai aimé dans la réaction d'après-match, j'ai pas aimé grand-chose du match des Pays-Bas, clairement, mais ce que j'ai aimé dans la réaction d'après-match.
Est-ce que vous avez aimé dans la première période, quand même, 2-3 séquences de jeu? Je parle de séquences de jeu.
Bien sûr.
Très intéressantes, malgré tout.
Bien sûr. Celle qui débouche sur.
Vous les avez vues aussi, comme moi, quand même.
Je l'ai dit pendant le match.
D'accord.
Celle qui débouche sur la reprise ratée à 6 mètres du but de Wijnaldum. Celle qui débouche sur d'autres opportunités, petites opportunités. C'est des choses qu'on voyait, par exemple, pas du tout avec Van Raal à la Coupe du Monde. Donc, effectivement, et c'est pas surprenant qu'on le voit avec Koeman par rapport à son premier passage à la tête des Pays-Bas. Mais c'est trop peu. Et en fait, à la fin du match, Koeman, mais j'ai entendu Xavi Simons, Van Dijk, en fait, personne ne se dit que il y avait des absents, etc. En fait, ils disent juste que c'était pas bon. Voilà, Van Dijk a dit on a été mauvais, on a été juste mauvais. Et il a raison. Et Koeman a appuyé sur... les erreurs individuelles. Et il a raison, en fait. Ce soir, sur les 4 buts, t'en donnes 3. Contre les Pays-Bas. Et finalement, ils ont tous répété. On en avait parlé avant le match. On s'était dit, attention à nos ressorties de balles. Les Français, ils attendent que ça. Sur des turnovers, d'envoyer une basse verticale très rapide pour attaquer la surface de réparation. Ils l'ont dit. Van Dijk l'a dit. Koeman l'a dit. Xavi Simons l'a dit. Et au final, ils ont tous dit, mais juste, on n'a pas fait le boulot, en fait. Ce qu'on avait préparé en avant-match, on l'a pas fait. On a été mauvais. Et, même Xavi Simons dit, on doit juste se regarder dans une glace, on en parlera demain avec Koeman, et on doit tous se remettre clairement la tête à l'endroit. Pas trop insister sur cette défaite, finalement, qui est assez large, parce que sinon, en gros, on va déprimer, et qu'il faut se tourner vers le prochain match. Mais clairement, équipe B ou pas équipe B, techniquement, il y a des erreurs de sortie de balle qui sont incroyables ce soir.
Ouais, et puis c'est toujours pareil. Hein. Moi, je le dis, je le répète. C'est sûr que quand tu fais rentrer à la 68e des joueurs comme Davy Klaassen ou un peu plus tard Daley Blind. Ils vont pas être champions d'Europe avec ces joueurs-là, ça c'est sûr. Moi, je vais même pas te parler du gardien parce que s'il est sain, il est bien gentil, mais s'il joue à NS et Nijmegen, c'est pas pour rien. C'est quand même un gardien qui a toujours été très moyen. Et sur le deuxième but, sur coup de pied arrêté, pour moi, il doit s'imposer,
oui,
même si
c'est pas la Coupe du Monde d'ailleurs.
Non, mais franchement, c'est pas possible d'avoir un gardien comme ça à ce niveau-là. Memphis, il est très très loin de son niveau. Et j'aime beaucoup Xavi Simons, hein, qui a énormément de talent et qui sera un des meilleurs joueurs néerlandais dans les prochaines années, à n'en pas douter. Mais c'est encore trop tendre, malheureusement. Heureusement, il n'était pas censé partir titulaire et puis il y a eu les absents. Mais
pourtant, on nous vendait tout ça. On nous vendait un
Simons,
Xavi Simons en très grande forme cette année.
Oui, non,
Depay,
mais c'est le cas. L'un n'empêche pas l'autre.
Là, tu joues contre l'équipe de France, là, quand même. Là, tu joues contre. Déjà, l'équipe de France face à cette équipe des Pays-Bas, que ce soit Taylor, que j'aime beaucoup, mais qui est un peu tendre. Berghuis, pareil. Même Gertraida, qui est très jeune. Mais déjà, physiquement. Tu vois, à un moment, Berghuis, l'ailier droit qui se fait bouger par Hernandez. Non, mais le haut niveau, là, t'es pas en Eredivisie. Je la connais, hein, la Eredivisie. Mais là, t'es pas en Eredivisie. Là, c'est le très haut niveau. Ne serait-ce que physiquement, si t'es pas capable de passer l'épaule, tu peux pas jouer contre l'équipe de France.
Mais finalement, ces joueurs-là qui sont en difficulté, ils auraient pas dû jouer ce soir. C'est ça aussi le paradoxe de ce match-là. C'est que finalement, les Taylor, les Berghuis, etc., finalement, ils doivent pas jouer. C'est Kopmeiner, c'est Frankie de Jong, c'est Steven Bergwijn, c'est Cody Rakpo. C'est des joueurs qui, eux, sont dans des grands clubs, qui ont un peu plus déjà d'expérience, etc.
Johan et Kevin, à quel point ça fait relativiser la prestation, la victoire des Bleus, ces Pays-Bas?
Non, mais pas trop. Enfin, c'est toujours le même discours. C'est pas parce que c'est une équipe B que ça doit relativiser la performance de l'équipe de France. Ils ont juste été bons, ils ont appuyé là où ils devaient appuyer, en fait, tout simplement. Et après, c'est sûr que l'opposition est plus faible, ça c'est indéniable.
Et puis quand tu prends deux buts dans les 8 premières minutes, en fait, c'est mort. Hein.
Ouais, et puis il le soulignait à la fin du match, en fait. Tu offres une configuration de match idéale pour l'équipe de France. À partir du moment où tu encaisses un but rapidement, derrière, tu sais que tu vas galérer pendant 80 minutes. Donc. Finalement, il faut pas trop s'inquiéter pour les Pays-Bas, parce que je pense que d'ici quelques mois, avec les titulaires, on aura une autre équipe. Et même ce soir, comme l'a dit Daniel, moi, il y a des phases de jeu que j'ai beaucoup aimées et que j'attendais de voir depuis de très longs mois sous Van Gaal. Et je vois quand même des signaux positifs. Après, ça fait réfléchir peut-être sur l'étendue du réservoir néerlandais et surtout le fait que quand on vous dit sans arrêt, c'est pas grave, on met les jeunes, il faut aussi qu'ils soient encadrés. Et ce soir, il n'y avait pas assez d'encadrement. Un joueur comme Van Dijk, par exemple, je sais que Van Basten l'avait démoli pendant la Coupe du Monde. Alors, c'était sans doute excessif et trop. Mais sur des questions de leadership, encore ce soir, je me pose pas mal de questions s'il doit être le taulier de cette équipe-là ou pas.
Alors les gars, pour conclure sur les Pays-Bas finalement, parce qu'on est quand même sur les qualifs de l'Euro 2024, je rappelle que les deux premiers de chaque groupe vont passer. La meilleure nouvelle, c'est peut-être que lundi, les Pays-Bas jouent Gibraltar, parce que dans l'autre match du groupe ce soir, la Grèce a mis bon 3-0 à Gibraltar, on en attendait pas moins, mais c'est peut-être mieux de se faire Gibraltar que la Grèce tout de suite, quoi.
Oui, non, mais c'est évident. Après, dans les mauvaises nouvelles du soir, il y a aussi la blessure de Gerard Troida qui, à mon avis, enfin d'après ce que disait Ronald Koeman, va être blessé assez longtemps. Et ça, alors outre pour les Pays-Bas, mais Feyenoord, je peux vous dire qu'ils vont pas être contents. Qui joue le titre, qui est premier en Eredivisie, donc blessure aux ischio apparemment qui est assez compliquée. Sachant que vous avez vu, hein, quand il sort, le latéral de Feyenoord, c'est un latéral gauche qui rentre au poste de latéral droit parce que c'est comme ça. Il y a trop d'absents. Dumfries est pas là. Il y a beaucoup trop d'absents. Donc c'est un peu compliqué. Mais Gibraltar, évidemment que là, si ça se complique contre Gibraltar, Koeman. Ça va pas très bien commencer sa secondaire.
Non, mais je pense que ça va aller.
Pour conclure, Kevin.
Pour Gibraltar.
Ouais,
je pense que ça va aller. Hein.
Lundi soir.
J'espère pour
nous. Pendant que la France sera à Dublin contre l'Irlande. Merci beaucoup, Johan.
Merci à vous, messieurs.
Bonne soirée et on se passe un coup de fil dans le week-end, dans l'after, bien sûr. 23h45 en direct jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz. Vous êtes très nombreux également à nous regarder ce soir, puisqu'on est en direct vidéo sur Twitch, comme tous les soirs, du lundi au vendredi, de 20h à minuit. Vous êtes nombreux à commenter également quelques messages à la volée là dans le chat. Restline écrit Van de Beek le gâchis. Voilà, il y a beaucoup de messages ce soir, vous êtes très nombreux. Où sont les attaquants néerlandais, demande Mustapha K. Voilà, merci à vous en tout cas d'être là, de commenter l'émission. N'hésitez pas, restez bien à l'écoute. Hier, si vous avez écouté l'émission, le podcast largement consacré à l'affaire Aminata Diallo, qui a fait des remous aujourd'hui, les mises au point de Daniel dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Thibaut Giangrande.
L'After en direct avec Kevin Diaz et Daniel Riolo ce soir pour le match de l'équipe de France. La victoire 4-0 contre les Pays-Bas. Merci à vous d'être là en direct sur RMC en ce vendredi soir, peut-être en retour de dîner, en allant en soirée. Merci à vous de passer une oreille, de nous regarder en direct vidéo sur la chaîne Twitch. Vous êtes plus nombreux là ce soir, énormément de messages et de viewers. Merci beaucoup. Nombreux également au 32-16. L'équipe de France, c'est fait, ce sera dispo en podcast dans quelques minutes. Hier, ça a été une grande partie de l'after, les révélations, Daniel, tes révélations sur l'affaire Diallo Amraoui, large partie de l'after consacrée. Et aujourd'hui, ça a fait des remous, ton intervention d'hier, notamment sur les réseaux sociaux.
oui, effectivement, je pense que à 11h ce matin, mon téléphone était déjà quasiment déchargé.
Ah oui.
Et il était à deux doigts de prendre feu. Il y a d'abord eu beaucoup de remerciements de gens impliqués dans cette affaire qui m'ont remercié parce que enfin on essayait de dire la vérité. Et évidemment ceux qui étaient impliqués de l'autre côté et qui ont mal pris ce que j'ai dit, et certaines de ces personnes ont des communautés de followers qui visiblement ne comprennent pas réellement comment fonctionne notre métier. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui va sur les réseaux sociaux et balance des choses et on prend ça pour argent comptant. Moi, j'aimerais dire à ces gens-là, je sais que notre métier n'est pas souvent compris, mais ils croient quoi en fait ? Ils croient qu'on peut venir sur une radio comme RMC, qu'on peut être dans un tel groupe, venir s'asseoir derrière le micro et dire des choses ou les supposer, mais je ne suppose rien du tout. Il n'y a aucune hypothèse dans ce que j'ai dit hier. Il n'y a que des vérités argumentées, prouvées, un travail de 6 mois, pas seul d'ailleurs, et d'ailleurs il faut que je dise que si ça fait beaucoup de bruit hier, Modestement, je suis bien obligé de dire que beaucoup de confrères dans les autres médias se sont également intéressés à l'affaire et ont sorti beaucoup de choses. Alors si hier ça fait plus de bruit, tant mieux, parce qu'il faut que du bruit soit fait sur cette affaire pour que la vérité voit le jour. Mais d'autres confrères savent également énormément de choses sur cette affaire. Donc je disais, un travail, je crois que j'ai commencé à m'intéresser au mois d'août à cette histoire. La rédaction des RMC est sur le coup. Tu les connais, les jeunes reporters qui travaillent dessus depuis longtemps. Des petits gars, comme en équipe de France, très brillants, qui ont beaucoup d'avenir, qui ont beaucoup bossé ensemble. Pardon,
je les connais, ils sont moins bien éduqués que les gars de l'équipe.
Non mais alors, qui ont bossé et je suis stupéfait qu'en fait on croit que ça peut être des suppositions. Alors certains menacent d'attaquer. On va en parler dans un instant. J'aimerais juste leur dire que ce sur quoi je m'appuie, c'est donc, je l'ai dit en plus hier, un dossier de 700 pages. Il croit que je l'ai inventé, ce dossier. Donc en fait, bon, c'est quand même vieux, hein. C'est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Donc, portez plainte. Allez-y. Il n'y a pas de problème si vous avez des gens de l'argent à perdre.
Mais. Parce que les remous dont on parle, et bon, là, peut-être la personne dont tu parles précisément, oui. C'est Romain Molina.
Oui, mais.
Que tu as cité hier.
Il y en a eu d'autres, parce que d'autres ont été cités. Donc, juste ce petit passage de cette loi, quand même, le prévenu, donc en l'occurrence, s'il porte plainte, ce sera moi, pourra produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d'une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction, ou tout autre secret professionnel, s'ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires. Donc, je pense que je suis très, très tranquille par rapport à ce que j'ai dit, au-delà des preuves que j'ai. Donc, si en plus le fameux Romain Molina veut porter plainte, qu'il le fasse, aucun problème. Juste qu'il mette un petit peu de sous de côté. Parce que déjà, il va devoir prendre des avocats pour les plaintes qui vont être déposées contre lui par Didier Olé-Nicole et par Kéram Rahoui.
Alors, juste précise, pour que tout le monde comprenne, et sinon je vous renvoie au podcast de l'émission d'hier, mais Romain Molina, que tu accuses, Daniel, d'avoir été une des marionnettes de César dans l'histoire, et d'avoir divulgué des informations... qu'on lui aurait donné fausse.
Voilà. Il a traîné dans la boue Olé-Nicole, Amraoui, qui ont vu leur vie chamboulée. Et en fait, moi en plus, je m'en prends pas à lui. Moi, il est pas très intéressant dans cette histoire parce que c'est juste une marionnette de l'histoire. Il est pas, il va pas faire de la prison. Il risque rien. C'est juste quelqu'un qui s'est complètement trompé. Et d'ailleurs, s'il réussit à avoir les pièces du dossier. Plutôt que de dire que je mens, je l'encourage. Il est cité à maintes reprises, hein, donc il y a pas de problème. Donc il se retrouvera facilement. Mais je l'encourage à aller page 24 où on fait référence à ses liens avec Diallo, notamment parce qu'ils sont de la même ville, ils sont originaires de la même ville, Grenoble, et de la façon dont il a orchestré la cabale contre Kerem Rahoui. Page 24, hein, si t'as le document, tu verras. Mais si on va au tribunal, t'inquiète pas, je viendrai avec. Comme ça, tu pourras le lire en direct. Il y aura pas de souci. Donc, au lieu de s'agiter, et évidemment, je comprends qu'ils aient été perturbés, tous ces gens-là. D'abord, il va falloir qu'ils répondent devant la justice. Certains vont être entendus rapidement. Je pense que lui, d'ailleurs, dans les 15 jours, sera entendu par la police. Donc, il pourra aller s'expliquer à ce moment-là.
Parce que pour être précis, Daniel, par exemple, Molina, lui qui aujourd'hui, donc ça fait partie des remous que j'évoquais tout à l'heure, il se défend aujourd'hui. Il dit fascinant de raconter que je parle à ce fameux César que je ne connais pas et à qui je n'ai jamais parlé. Les flics le savent parfaitement vu que vous avez mis plein de gens sur écoute. Donc là,
c'est effectivement très très drôle. Si toi, le téléphone que tu as dans la main, tu veux pas me le donner directement, mais tu le fais passer par Kevin. Oui, je vais dire. C'est pas Thibaut qui m'a donné le téléphone.
Okay, il joue sur les mots.
S'il veut, il peut dire ça. Mmh. Oui, effectivement, c'est pas toi qui va me donner le téléphone que dans les mains. Parce que là, Kevin, il va me le donner. C'est à peu près la même chose.
C'est moi, voilà. Mon téléphone.
Il dit autre chose dans son message. Comme ça, tant qu'à faire, on va complètement répondre. Il dit autre chose. Il te donne
rendez-vous au tribunal.
Mais... Oui, moi ça.
Mais non,
je dis vraiment, vaut mieux. Alors après, le problème, c'est qu'on est dans un contexte aujourd'hui où les gens prennent des avocats. Mine de rien, ça coûte un petit peu cher. Et y a des avocats qui sont prêts à se lancer dans des affaires perdues d'avance. Donc, moi, j'ai aucun problème, mais encore une fois, il vaut mieux garder ses sous parce qu'il va devoir répondre déjà de deux plaintes qui vont être contre lui. Donc avant de prendre à moi, surtout que d'ici là le jugement sera rendu. Donc
tu peux sortir très riche de cette affaire, pardon, parce qu'il dit j'ai jamais eu une conversation de ma vie avec César. Je te donne 10 millions si tu prouves l'inverse. Moi, je serais toi, je prouverais vraiment fort l'inverse.
Non, parce qu'en fait, c'est comme je te disais, c'est quand tu passes par quelqu'un pour faire passer les messages. Effectivement, c'est pas en direct. Voilà. Mais en fait, aussi bien dans mon livre que hier soir, je n'ai jamais dit qu'il l'avait appelé. J'ai dit qu'il recevait les informations d'eux. C'est complètement différent. Mmh. Dans les systèmes mafieux, d'ailleurs, généralement, le capot ne parlait pas directement aux gens à qui il voulait faire passer. Il y avait toujours des intermédiaires. Mais le but final, ça, je vous assure, c'est bien ce que j'ai raconté et c'est bien ce qui est présent dans tous les rapports. Et je n'ai pas dit autre chose hier. Voilà. Quant au droit de réponse ou choses qui sont demandées... il y a un avocat qui a envie d'avoir un droit de réponse. S'il veut, il peut venir, mais qu'il vienne avec le dossier sous le bras. Comme ça, il m'expliquera, puisque si même des écoutes et des rapports de police, ça suffit pas à les convaincre, c'est pas grave. Il pourra venir faire de la rhétorique et faire des phrases. Il y aura aucun problème pour qu'on écoute ça. Mais encore une fois, vraiment, je pense que je suis, mais d'une tranquillité. Vraiment, je suis très serein sur ce dossier. Vraiment. Mais bon, écoute, s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, de toute façon, ça arrive souvent. Hein. Ça arrive souvent qu'on soit attaqué. L'année dernière, au mois de juillet, on a parlé de Bordeaux et de choses qui se passaient au sein du staff bordelais. Le lendemain, il va porter plainte sur Twitter. Il y avait 1000 trucs et tout. On est au mois de mars, j'ai toujours rien reçu. C'est que les gens, à un moment, ils s'agitent beaucoup. Et puis après, à mon avis, ils doivent réfléchir et dire « on va peut-être pas y aller parce que... » On sait jamais quand même ce qui peut se passer, mais ça fait bien de dire je vais t'attaquer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Qui pensent déjà à faire attention et qu'ils attendent déjà de passer devant les flics et puis quand ils y passeront, ils verront si vraiment ça vaut le coup d'aller plus loin.
Je vous renvoie au podcast de l'After d'hier, voilà. Donc 23 mars.
Et encore une fois,
pour avoir tous les détails.
Vraiment, moi c'est quelqu'un que j'ai connu à une époque avec qui j'entretenais plutôt de bons rapports d'ailleurs. Sa boutique tourne plutôt pas mal, ce qu'il fait machin.
Boutique de t-shirts.
Il a mal pris que je dise hier influenceur, mais c'est juste qu'il est pas journaliste et que dans les rapports de police, c'est comme ça qu'il est dénommé. Donc moi, je n'ai fait que répéter. Donc, il fait plutôt, ça lui arrive même de faire des choses intéressantes. Là-dessus, c'est complètement fourvoyé sur ce dossier. Et il a, en plus, il est quelque part un peu victime puisqu'il a été totalement instrumentalisé. Donc il devrait juste réfléchir et pour poursuivre sa carrière, ou parfois il lui arrive de mettre les mains dans des affaires très intéressantes, dire, je me suis fourvoyé, j'ai été instrumentalisé. Je suis passé à côté. Ça peut arriver à tout le monde dans une carrière de passer complètement à côté d'un dossier. Ce serait presque tout à son honneur et à sa dignité de le dire. Et puis on oublierait, en tout cas pour lui, il oublierait cette affaire. Parce que je pense que la victime principale qui reste Kerem Rahoui, elle n'est pas prête d'oublier. Peut-être quand elle partira du PSG, qu'elle ira poursuivre sa carrière. Je lui souhaite d'aller dans un grand club et de tourner la page de cette année absolument horrible qu'elle a vécue. Peut-être qu'elle n'y pensera plus et elle ne pensera plus à lui. Mais ça va quand même être dur parce que ça a été très 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 compliqué. Mais encore une fois, lui, il n'est pas le coupable numéro un. Il a vraiment été instrumentalisé.
S'il veut répondre, il peut.
La coupable, c'est Aminata Diallo, c'est son conseiller, sont eux, quoi, les personnes centrales du dossier. C'est pas lui. Faut pas qu'il se bloque là-dessus.
Et s'il veut répondre, pourquoi pas?
Et qui veut, si sur Twitter, mais je ne répondrai en tout cas que les auditeurs le sachent, ce sera dans l'after à chaque fois, jamais sur Twitter. Je ne tomberai pas là-dedans parce que je sais comment ça marche.
Et voilà. Donc on va s'arrêter là-dessus. Intégralité du podcast pour tout comprendre à l'affaire hier, le podcast du 23 mars de l'after. Voilà, on s'arrête là. Beaucoup de messages. On a fini de plus en plus nombreux hein, sur la chaîne Twitch RMC Sport. Là, on est plus de 1800. Énormément de messages. Je peux pas tout lire. Mais ça vous a plu ce dernier petit débat autour de petites infos, petites mises au point de Daniel autour de cette affaire. Donc je vous renvoie au podcast. Daniel, merci d'être venu en ce vendredi soir. Merci Kevin également.
Salut,
vous êtes là tous les vendredis soirs, donc tu reviens vendredi prochain.
Et oui.
Merci à vous d'avoir été là, surtout merci à Toto, Najib en régie, Adrien au standard. Merci d'être fidèle. L'after revient demain après le rugby, hein. Match de rugby demain soir, mais l'after sera là comme tous les soirs jusqu'à minuit. Bonne nuit l'équipe.
RMC, l'after foot.